à tous, c'est Marie-Pierre Haddad. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Je vous propose aujourd'hui d'analyser ensemble la crise qui touche le monde agricole, les raisons de la colère des agriculteurs et surtout les conséquences politiques.
Ce qu'on veut, c'est monter en charge. Donc on va bloquer tous les grands axes autoroutiers qui quittent Paris à 30 km de Paris. Ce qui veut dire que notre objectif, ça n'est pas d'ennuyer ou de pourrir la vie des Français. Notre objectif, c'est de mettre la pression sur le gouvernement pour faire que rapidement on trouve des solutions de sortie de crise. On fait monter la pression parce qu'on a compris que finalement quand c'était loin de Paris, il y avait pas de réception du message.
Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, c'était sur RTL le 29 janvier. Vous venez de l'entendre, l'objectif est simple, maintenir la pression sur le gouvernement. Le bras de fer entre le premier syndicat agricole français est engagé avec l'exécutif, mais l'ensemble de la classe politique, que ce soit du gouvernement aux oppositions, soutient les agriculteurs. Et c'est quand même une unanimité assez rare pour être soulignée. Et c'est donc ce qui m'a poussée à m'interroger sur les intentions de nos politiques. Quelles sont les conséquences de cette crise? Sans oublier que dans 5 mois, les élections européennes ont lieu. L'Europe, justement, où sont votées un bon nombre de mesures qui impactent directement nos agriculteurs au quotidien. Pour décrypter tout ça avec moi, j'accueille aujourd'hui François Purseigle, sociologue à l'Agro-Toulouse et chercheur au CVIPOF. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle « Une agriculture sans agriculteurs ». Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est née cette crise et comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation de blocage ?
Cette crise, elle est née en Occitanie, dans une région où un certain nombre d'agriculteurs ont consenti énormément d'efforts pour transiter vers l'agriculture biologique, une agriculture biologique qui ne trouve pas forcément de clients dans certains magasins. Elle est née dans une région où un certain nombre d'agriculteurs ont misé sur les circuits courts, ont monté des boutiques de producteurs qui voient leur chiffre d'affaires dégringoler. Elle est née dans une région, finalement, qui a subi de plein fouet aussi la crise climatique cet été, où les agriculteurs ont le sentiment, finalement, de plus être en capacité pour faire. C'est-à-dire dans une région où, en plus, les agriculteurs, et ça, c'est vrai sur l'ensemble du territoire, se sentent désarmés sur le plan productif, sur le plan économique.
Est-ce que, selon vous, le mouvement de contestation des agriculteurs, on peut dire que c'est un mouvement disparate ?
C'est un mouvement très disparate. Pourquoi ? Parce que, finalement, la profession agricole est très éclatée en termes de revenus, en termes de projets entrepreneuriaux. Les écarts de revenus vont de 1 à 5. L'agriculture, ce sont des chefs d'entreprise aux projets à l'ambition artisanale, commerciale ou industrielle. Donc on a une multitude de revendications, mais il faut savoir aussi que finalement, les Français attendent beaucoup de l'agriculture.
Et c'est justement pour vous un point essentiel, le rôle des consommateurs ?
Je pense que cette crise, elle témoigne aussi d'un sentiment de manque de confiance vis-à-vis de consommateurs qui se sont détournés finalement de ces produits qui, en fait, étaient des produits de qualité vers lesquels les producteurs ont investi et sur lesquels les producteurs ont investi. Finalement, on a aujourd'hui des importations qui se font autour de produits d'entrée de gamme, alors qu'on en a appelé à une montée en gamme de l'agriculture française. C'est aussi une crise de confiance de la part d'agriculteurs, finalement, qui souhaiteraient pouvoir porter des projets entrepreneuriaux, notamment d'extension, de bâtiments, et qui se voient contestés et controversés dans les espaces ruraux également. Et puis une crise de confiance à l'endroit aussi des industriels. Ils se pensent trahis par certains, peut-être pas par tous, mais par certains. Donc il n'y a pas un bouc émissaire, il y a finalement différents boucs émissaires, différentes sources et différentes origines à cette crise.
Je voudrais qu'on écoute le témoignage d'un couple d'agriculteurs. Ce témoignage a été recueilli au micro de notre journaliste Franck Hanson.
Nous, agriculteurs, on n'a pas le droit de décider notre prix de vente.
On a beaucoup de mal. Nous, on est à deux sur l'exploitation. J'ai pas peur de vous le dire. On se dégage un salaire de 1000 euros par mois. Moi, j'ai dû prendre un métier extérieur pour essayer de gagner un peu plus d'argent, bûcheron et lagueur. Pourtant, on cultive 46 hectares. C'est moins du SMIC, monsieur. Et on compte pas nos heures. C'est nous, ce qu'on demande, c'est de vivre de nos heures travaillées. On ne veut pas d'aide, nous on veut du concret. Tapez un petit peu sur la grande distribution.
François Purseigle, vous avez dit qu'il y a une multitude de revendications. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner les revendications, les principales en tout cas ?
Les principales, elles portent aussi finalement sur une exigence réglementaire et administrative qui pèse sur, et ça c'est le dénominateur commun, des exploitations familiales françaises qui sont de plus en plus fragilisées et qui se pensent désarmés humainement, économiquement et technologiquement. C'est-à-dire que finalement, les agriculteurs ne retrouvent pas le sens de leur métier, ils ne voient pas le sens à cette exigence normative qui leur est parfois imposée. Ils ne sont pas contre les normes, ils portent parfois finalement aussi des normes hein, avec des cahiers des charges, mais ces normes souvent débouchent sur de la valeur. Ils attendent que l'exigence réglementaire, elle débouche sur de la création de valeur. Et ça, cette valeur, ils ne la voient pas au rendez-vous. En fait, ils ne comprennent pas le sens agronomique, le sens économique, le sens social de ces normes qui sembleraient s'imposer à eux. Ils ne sont pas contre l'environnement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont même les premières victimes du changement climatique, comme je le disais. Ils voient bien que, finalement, leur capacité à produire est de plus en plus limitée parfois. Donc, des revendications diverses pour des situations économiques très diverses. L'agriculture française, ce sont des agriculteurs qui sont parfois même en très très bonne situation financière, mais aussi des agriculteurs qui sont en situation d'incertitude et qui n'arrivent pas à se projeter. Finalement, ils n'arrivent pas à savoir ce qu'on veut d'eux. En fait, l'agriculture est un secteur qui est fantasmé. Un certain nombre de Français n'arrivent pas à penser les réalités actuelles de l'agriculture et même certains politiques fantasment une agriculture qui s'éloigne du réel.
Oui, et pour revenir sur le sujet de l'Europe, Emmanuel Macron a déclaré « il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'Europe, ce serait la facilité ». Est-ce que pour les agriculteurs, l'Europe, c'est le gros responsable de leur situation, selon vous ?
Non, je pense que la plupart des agriculteurs français sont conscients de ce qu'a apporté l'Europe, finalement, et de la place qu'occupent aussi les subventions européennes. Ce qu'ils ne comprennent pas forcément dans les dispositifs proposés par l'Europe, c'est le sens qui est donné à la règle, le sens qui est donné à la norme. Ce qui pèse sur eux et sur leurs épaules, c'est leur capacité à faire. Vous avez des exploitants agricoles qui se voient finalement imposer des règles qu'on impose à d'autres secteurs d'activité au moment même où on n'accepte pas que les exploitations agricoles soient des entreprises comme les autres. C'est ça aussi quand même le grand paradoxe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un responsable, mais il y a une incapacité à penser l'entreprise agricole comme une entreprise comme une autre. Et le problème qui est posé et qui est sur la table, c'est celui des moyens qu'on va mettre sur la table également, les moyens qui seront mis à disposition des agriculteurs pour qu'ils puissent répondre à de nouvelles injonctions, et notamment des injonctions environnementales.
Et je voudrais revenir aussi sur cette colère qui s'exprime. Le président des jeunes agriculteurs, Arnaud Gaillot, parle d'un ras-le-bol sans précédent. Écoutez.
La détermination, en tout cas, elle est bien réelle sur le terrain.
Ah, puis je pense que plus que jamais, moi je ne l'ai jamais vu à un niveau aussi élevé.
Jamais ?
Non.
Jamais par le passé.
Non, là honnêtement, on a une vraie crise profonde. Les mecs, malheureusement, ont pour certains plus rien à perdre. Donc en fait, c'est leur survie qui est en jeu, leur survie de leurs entreprises, de leurs familles. Donc voilà, il y a des gens déterminés qui ne lâcheront rien.
Cette interview a été réalisée par Amandine Bégaud sur RTL. François Pursaig, ça fait des années que les agriculteurs alertent sur leurs conditions de travail et sur le fait qu'ils doivent survivre. En quoi là, c'est différent et un point de non-retour a été franchi, d'après vous, dans la manifestation ?
C'est quand même une crise existante. C'est quand même la crise d'un secteur qui se voit mourir, qui se voit disparaître, mais au sens propre. C'est-à-dire qu'il faut savoir que 200 000 d'entre eux auront l'âge de partir à la retraite, et parmi ces 200 000 exploitants qui auront l'âge de partir à la retraite dans les années qui viennent, rares sont ceux, seulement une moitié ont un successeur de désigné déjà. Donc il y a une lame de fond derrière cette crise. Ça fait quand même des mois et des mois que sur les boucles WhatsApp, sur les boucles Facebook, un certain nombre d'agriculteurs, et notamment les plus jeunes d'entre eux, expriment leurs doutes quant à leur capacité à être là demain. C'est-à-dire que finalement, ils ont fait ce choix-là, ce choix de ce métier par passion, et ils ne sont pas sûrs de pouvoir en vivre finalement tout au long de leur carrière. Et il y a un sentiment de décalage aussi entre des revenus qui certes ont peut-être évolué positivement dans certains secteurs, mais qui ne renvoient pas finalement aux efforts consentis et à la charge de travail finalement. C'est-à-dire qu'il y a un décalage de proportionnalité entre le travail engagé et puis ce qu'il gagne vraiment. Voilà. C'est pas simplement une crise économique, c'est aussi une crise sociale et peut-être une crise avant tout sociale.
Et pour bien comprendre vraiment les syndicats qui mènent cette contestation, on parle beaucoup des jeunes agriculteurs. Qui ils sont et quel poids ils ont dans la contestation actuelle ?
Ce sont des agriculteurs même parfois autonomes hein, qui ont lancé aussi le mouvement, notamment dans le Sud-Ouest. Un certain nombre de fédérations locales ont emboîté le pas. bas. Ce sont des agriculteurs qui vivent des situations extrêmement variées. Je le voyais sur un certain nombre de barrages ici dans le sud-ouest. On a finalement une grande variété de revendications parce que la composition de ce mouvement est quand même très, très hétérogène. Mais finalement, ils partagent tous une même fragilité, une même incompréhension. Donc, on a une pluralité de situations, ce qui rend beaucoup plus compliqué finalement la résolution de cette crise qui est immanquablement multifactorielle.
Ils attendent des réponses de la part de la classe politique et il y a aussi la question de la récupération politique qui a rapidement été posée au sein du mouvement des jeunes agriculteurs. Écoutez.
Il faut aussi qu'on fasse attention à pas qu'il y ait des gens qui profitent du mouvement pour venir s'y raccrocher.
Pensez à certains politiques.
Oui.
Rassemblement voilà. National par exemple ou...
Oui, ou comme d'autres. Enfin, il y a un moment donné, moi je veux bien qu'ils nous aiment tous, tant mieux, mais qu'ils le prouvent par des actes. Enfin, à un moment donné, les paroles, ça suffit. Quoi.
Est-ce qu'il y a un vote des agriculteurs? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ils se décomposent? Est-ce qu'il y a de l'abstention et pour qui votent en fait les agriculteurs?
Ils votent massivement ces agriculteurs pour la droite républicaine, mais ils ont su apporter aussi leur vote à Emmanuel Macron. À la veille de la présidentielle, ils étaient 29% à déclarer vouloir voter pour Emmanuel Macron, 18% pour Valérie Pécresse. Ils auraient apporté pour 10% leur voix à Marine Le Pen et 11% à Éric Zemmour. C'est un vote qui se banalise, qui finalement est un vote un peu comme les autres, mais c'est une clientèle électorale finalement qui peut peser dans certaines élections et notamment dans les élections européennes. Pourquoi ? Parce que la résignation qui caractérise aujourd'hui notamment les plus jeunes d'entre eux peut les conduire finalement à se tourner vers certaines offres électorales, mais surtout à s'abstenir. Il ne faut pas oublier que les agriculteurs allaient au bureau de vote comme ils allaient à la messe. On observe quand même depuis quelques années des taux d'abstention liés à leur résignation aussi, qui sont de plus en plus élevés dans cette population qui était relativement fidèle. Mais c'est aussi une population qui n'est pas naïve sur ces tentatives, on l'entendait, de récupération. Il va falloir, de toute façon, pour les conquérir, parce que c'est un vote qui se conquiert, qui n'est pas acquis ni pour les uns, ni pour les autres. Il va falloir quand même que la classe politique arrive à parler aux chefs d'entreprise qu'ils sont. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'acteurs du politique jouent de manière un peu démagogique sur le registre du malaise agricole. Donc on a certains partis qui peuvent parler à certaines franges de la population, mais faudra-t-il encore que les politiques sachent parler aux chefs d'entreprise qu'ils sont et aux attentes qui sont avant tout des attentes de petits patrons.
Le vote du Rassemblement National, vous l'avez dit, la récupération politique, les jeunes agriculteurs en sont parfaitement conscients et s'en méfient. Mais depuis 2001, le FN et ensuite le Rassemblement National gagnent des points au sein de l'électorat des agriculteurs. Et Julien Fautra est parti à la rencontre d'un des agriculteurs qui vote Rassemblement National.
Il faut que nos politiques aujourd'hui nous protègent face à la mondialisation. Quoi.
Est-ce que c'est ça qui vous pousse à voter Rassemblement National?
Bah oui, quelque part. Je vous dis, moi, si on continue comme ça, on va tous disparaître.
Vous pensez que Marine Le Pen, elle peut vraiment résoudre la situation?
J'ai encore un petit peu espoir, mais j'ai peur que ça soit trop tard, quoi. Franchement.
Est-ce que vous faites aussi le constat que le vote Rassemblement National s'étend de plus en plus?
Non, c'est difficile de dire ça. Les agriculteurs votent en fonction du contexte dans lequel ils sont, en fait, territorialement, socialement. On voit que ce vote est un vote qui a fait rempart, en fait, à Jean-Marie Le Pen et à Marine Le Pen pendant très très longtemps. La digue a sauté, mais finalement, ce vote se banalise. Ils votent ni plus ni moins comme les autres, et donc ils sont comme les autres plus ou moins sensibles en fonction de leur situation finalement à l'offre électorale d'extrême droite, mais c'est surtout fonction finalement des réalités qu'ils traversent et qui les caractérisent. Le discours de Marine Le Pen est un discours qui ne passe pas dans une frange de la population qui est pro-européenne, une population agricole qui finalement considère que il faut exporter et qu'il faut aussi mobiliser une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre étrangère. Donc, vous savez, les agriculteurs savent ce qu'ils doivent à l'Europe, ils savent aussi ce qu'ils doivent à leurs exportations. La France est un pays agricole qui exporte, et donc finalement le discours d'enfermement et de repli peut parler à certaines franges de la population agricole, certainement pas à toutes.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sujet de la crise agricole a relancé les invectives entre la majorité et le Rassemblement National.
La réalité est que Gabriel Attal, non seulement n'est pas à la hauteur sur la réponse, mais parce que derrière, ces réponses sont sous-tendues par une philosophie politique, par des actes politiques aussi qu'on a pu mesurer ces dernières années, qui sont en parfaite contradiction avec les demandes des agriculteurs. La stratégie du ballot de paille là, à laquelle a essayé de nous faire croire Gabriel Attal, il manquait plus que les bottes, et puis voilà, enfin, sincèrement, elle trouve ses limites. Vous ne pouvez pas faire croire à des gens que vous les soutenez lorsque pendant des années, vous avez soutenu des dispositions et des politiques qui vont à l'encontre de leurs intérêts.
Sébastien Chenu, vice-président RN de l'Assemblée. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il parle de bottes. Écoutez.
Je suis content qu'il découvre ce que c'est que des bottes, mais j'aurais aimé qu'il découvre l'agriculture avant, pour tout vous dire. Enfin, moi, je suis largement autant rural que M. Bardella. Je vis dans un village de 700 habitants, donc je sais à peu près de quoi je parle, et sur la ruralité, et sur l'agriculture. Donc il ne va pas me faire le coup de l'héritage du patrimoine, parce que ça, c'est un mauvais débat. S'il veut qu'il rentre sur ce sujet-là, il va assez vite se retrouver perdu lui-même au milieu des champs, si vous me permettez cette expression.
Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture sur RTL. Je voulais évoquer avec vous, François Pursaigle, le syndicat La Coordination Rurale. On l'est dit assez proche quand même du Rassemblement National.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. On a derrière La Coordination Rurale, un mouvement sur lequel j'ai beaucoup travaillé, finalement une hétérogénéité de situations et de comportements politiques comme dans d'autres syndicats agricoles. On a surtout derrière ce syndicat des gens qui se sentent floués par des politiques publiques et notamment des politiques européennes, et leur adhésion à ce mouvement ne renvoie pas forcément à un positionnement politique. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Sur la mobilisation en tant que telle, il y a des blocages dans toute la France, et le parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes est en tout cas dans l'esprit de beaucoup de politiques, notamment de Valérie Pécresse, la présidente Les Républicains de la région Île-de-France.
Je suis en profonde sympathie avec le mouvement des agriculteurs, et c'est vrai que j'entends leur exaspération et la colère. Vous le savez, ils travaillent dur, ils se lèvent tôt, ils nous nourrissent et ils ont le sentiment qu'ils n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. Et ils ont le sentiment aussi, et c'est plus profond, d'être mal aimés. Ils ont le sentiment qu'on leur amasse des normes ubuesques sur la tête. Alors, il y a les normes européennes, bien sûr, mais
le ça pire... fait des années qu'on entend ça.
Oui, mais vous savez, il y a des gouttes d'eau qui font déborder le vase. Souvenez-vous des gilets jaunes.
Est-ce que vous faites la même analyse dans vos recherches que oui, il y a une similarité entre le mouvement et la colère des agriculteurs et celui des gilets jaunes?
Je pense pas. Je pense que finalement, il faut pas oublier que le mouvement des gilets jaunes a eu très peu de prise quand même sur les agriculteurs. C'était un mouvement qui était porté avant tout par des classes populaires. Il faut savoir que les agriculteurs sont une minorité quand même dans les espaces ruraux. Ils ne partagent pas forcément les mêmes revendications que des classes populaires ouvrières, qui étaient des classes assez centrales dans le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que c'est avant tout un mouvement de petits patrons. Et on le voit par contre, ce mouvement agrège finalement d'autres entrepreneurs. Je pense aux entrepreneurs de travaux, je pense aux bouchers, aux artisans. Finalement, on voit que ces catégories d'entrepreneurs en zone rurale apportent leur soutien, mais ce n'est pas tout le monde rural non plus, même si ce mouvement est populaire. C'est un mouvement qui ne fait pas forcément écho à toutes les revendications qui sont celles, notamment des catégories populaires. Donc attention, attention à ne pas réduire la population agricole à la population rurale et à ne pas la confondre. Ce sont parfois des populations distinctes. C'est aussi pour ça qu'ils sont dans la rue, ces agriculteurs. C'est parce qu'ils sont parfois incompris de leurs voisins qui ont du mal à admettre leurs projets entrepreneuriaux. Donc on est très très loin des mêmes revendications d'une catégorie à l'autre.
Il y a une échéance qui va rapidement arriver, c'est celle du Salon de l'agriculture qui a lieu dans moins d'un mois. C'est un rendez-vous politique extrêmement important. D'après vous, quelles sont les solutions qui peuvent être apportées? Et en gros, quelle est la sortie de crise?
Je pense qu'il ne va pas un bouc émissaire. Il y a plusieurs sources à ce malaise. Il sera difficile d'apporter de toute façon des réponses concrètes à tous les maux qui caractérisent l'agriculture. Pourquoi ? Parce que finalement, les réponses, elles relèvent parfois de politiques sociales, de politiques territoriales ou de politique économique. Un seul instrument ne permettra pas de toute façon de répondre à l'ensemble de ces revendications. C'est compliqué peut-être pour le gouvernement, mais ça serait compliqué pour tous les gouvernements. C'est de plus en plus difficile d'accompagner finalement une population qui est de plus en plus diverse. Et puis les solutions, elles relèvent aussi du consentement à payer un certain nombre de produits. Elles relèvent aussi de la capacité des Français à accepter que les agriculteurs finalement puissent porter leurs projets entrepreneurs comme il le souhaite.
Donc pour vous, concrètement, le gouvernement ne pourra pas apporter dans les prochains jours des réponses concrètes qui pourront en tout cas contenter le monde agricole?
Disons que je pense qu'il va falloir prioriser. Il va falloir prioriser, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent, pour pouvoir justement permettre ensuite de co-construire différemment avec l'ensemble des acteurs et puis surtout retrouver une ambition partagée. L'un des grands défis aussi pour les politiques, c'est d'arriver à redessiner les contours du contrat social, du contrat politique et économique avec l'ensemble des agriculteurs français.
Merci beaucoup François Pursaigle pour cet éclairage et votre analyse. Damien Béchiot est à la réalisation de cet épisode. Vous pouvez écouter tous les épisodes de Focus. N'hésitez pas à les piocher sur l'application RTL, sur le site rtl.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement.